Philippe 6 mai 83 à Rimont.
Je réponds tout de suite à cette question et puis après nous continuerons. Ne peut-on pas dire que le contenu de la sensation et l'information, la réception d'une forme visuelle, auditive, enfin c'est sûr, que la sensation, le contenu, c'est-à-dire la détermination de la sensation. Toute sensation implique une détermination, elle implique un objet qui la spécifie. Quel est cet objet qui la spécifie? C'est la couleur, c'est le son, c'est la lumière, c'est la chaleur, un objet tactile. Donc, ce sont les différents objets des divers sens. Ces objets des divers sens vont déterminer la faculté de sensation de l'intérieur, puisque la sensation est une opération vitale. Donc il faut que, à l'intérieur même du vivant d'une sensation, il y ait une détermination, une forme intentionnelle, sensible, qui informe la dynamis, la puissance sensible. Alors, la grosse difficulté, ça, je ne veux pas entrer dans cette question-là, parce que c'est une question qui a été très discutée chez les scolastiques, qui est une question intéressante, mais qui est un peu, quelquefois un petit peu difficile, qui est donc beaucoup plus critique que dans la philosophie du vivant. Du côté de la philosophie du vivant, n'oublions pas, nous regardons la diversité des opérations. Le comment de l'opération de la sensation, c'est beaucoup plus critique. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Vous voyez ? Alors ici, je souligne que c'est en critique qu'on devrait regarder comment nous pouvons sentir. Ça, c'est le comment. Et le comment de la sensation, c'est vraiment un problème critique, à partir de Descartes. Puisque Descartes dit que les sensations n'ont rien d'objectif, que la seule objectivité des sensations provient des sensibles communs, il faut montrer que l'objectivité de la sensation provient des sensibles propres. Alors vous comprenez, les sensibles propres, hein, les sensibles propres. Je prends aussi comme sensible propre la couleur. Toujours la vision, la couleur. L'écarlate de la rose, la couleur. Bon. Et implique la lumière. Condition sine qua non pour que je puisse voir telle couleur, il faut la lumière. Bon. Ce sensible propre, il affecte une réalité physique, vivante, la rose. Alors il y a deux problèmes, vous voyez. Qu'est-ce que ça représente comme qualité particulière de la rose, et comment mon œil, et surtout ma faculté, ma capacité de voir, ma capacité de vision, est informée par ce sensible propre. Le sensible propre, c'est l'objet, donc c'est-à-dire ce qui spécifie, ce qui détermine ma capacité de vision. Ça, c'est sûr. Je vois l'écarlate de l'armée. Dis simplement ça. La rose, on l'enlève, je ne vois plus rien. Dès qu'elle est présente, je la vois. Comment se fait cette vision? Alors là, c'est un problème critique. Comment se fait cette vision? Au point de vue philosophique du vivant, je constate que toute vision est une connaissance, comme tout toucher est une connaissance, qui implique donc nécessairement, dès que je l'analyse, un apport de l'objet, cet objet je l'appelle le sensible propre, et un apport du sujet, sujet connaissant, toujours. Toute connaissance, dès qu'on l'analyse, implique l'aspect de la détermination et de la cause efficiente. Le sujet vital, le sujet vivant, il est cause déficiente. Il est en même temps cause matérielle. La cause matérielle, c'est l'organe. Et la cause efficiente, c'est, en plus de l'organe, ce qu'on appelle la dynamique, la puissance. J'ai une faculté de voir à travers cet organe physique, biologique. Donc, et le sensible droit vient déterminer le sujet vivant. Il permet de partir. Et c'est pour ça qu'on souligne que la vision, que toutes les sensations impliquent un temps pascal. On pâtit. On pâtit tout simplement parce que si l'objet disparaît, on ne voit plus rien du tout. Alors il faut expliquer le passage de ce sensible propre qui immerge dans la réalité physique, qui représente une qualité particulière de cette réalité physique, une qualité sensible de cette réalité physique, comment ce sensible propre peut déterminer cette faculté du vivant qui est autre. Et comment, déterminant cette faculté du vivant, je suis en présence d'une opération particulière qui implique une certaine immanence. La vision est une opération immanente. Donc, à l'intérieur de la vision, il y a une forme intentionnelle qui provient du sensible propre et qui affecte ma puissance de vision. C'est ça qu'on appelle la forme, une forme, eidos, hein, en grec c'est eidos. Une forme sans matière, comme dit Aristote toujours, une forme sans matière, donc une forme intentionnelle. Une forme intentionnelle sensible. Et cette forme intentionnelle sensible est présente dans la vision. Et elle détermine, elle est le contenu de ma vision. Et ce contenu de ma vision me permet d'être en contact. Alors le double contact, dans toutes les sensations, il y a un double contact. Il y a une altération physique, il y a un contact matériel, qui se fait par les intermédiaires ou qui se fait directement selon le toucher. Il y a toujours un intermédiaire. Et cet intermédiaire fait le contact biologique et il y a un contact beaucoup plus difficile à préciser, qui est le contact intentionnel, puisque je vois. Et ce contact intentionnel fait que je suis changé par la fleur que je vois, et la fleur que je vois n'est pas changée par ma vision, sauf si j'ai le mauvais œil. Alors à ce moment-là, je change. Autrement, normalement, non. Je ne change pas ce que je vois, ce n'est pas en vous regardant que je vous change. Vous pouvez rougir, mais pas plus. Vous changez, voilà, si vous êtes écarlate, il n'y a rien qui change. Vous voyez, donc, on ne change, en voyant quelque chose, on ne modifie pas, mais je suis modifié. C'est pour ça que les sensations impliquent en premier lieu un taux pascal. On est modifié par la qualité qu'on connaît. Et cette modification se fait au niveau intentionnel, pas seulement au niveau physique, biologique. Alors, le niveau biologique permet de comprendre qu'il peut y avoir quelque chose qui est intermédiaire. Si, de fait, je suis en présence d'une chaleur trop grande, je ne sens plus rien. Pourquoi ? Parce que biologiquement, l'organe est attaqué. Et si biologiquement l'organe est attaqué, il peut être détruit, je ne sens plus rien du tout. Moi, je le sens au moment, mais au bout d'un certain temps, l'organe est attaqué. Eh bien, c'est la même chose au point de vue de la vision. Il y a un champ, on peut préciser, du reste, toutes les expériences sont là, pour voir le champ auditif, le champ visuel, et ainsi de suite. Vous voyez ? Mais ce qui est intéressant au point de vue philosophique, alors là, qui relève vraiment de la critique, d'essayer de comprendre qu'est-ce que représente cette forme intentionnelle sensible qui fait le lien entre la vision, celui qui voit, et l'objet vu. C'est une connaissance qui implique quelque chose d'ordre intentionnel. Et quand je dis d'ordre intentionnel, je veux dire quelque chose qui n'est plus d'ordre biologique, qui est d'un autre ordre. Qui est d'un autre ordre. Qui est l'ordre propre que distingue le philosophe. Hein. C'est ça qui est très intéressant à voir. C'est cette forme intentionnelle qui est le contenu même de ma vision. Vous voyez ça, c'est important à saisir. J'en ai pas trop parlé parce que pour moi c'est pour tout, beaucoup plus de l'ordre de la critique. Mais c'était bon de bien voir justement le lien entre la philosophie du vivant et le point de vue de la critique. C'est le comment de la vision. Comment je suis capable de voir. C'est C'est vrai, c'est extraordinaire. Alors, les scolastiques ont fait le parallélisme entre l'intellect agent, vous voyez, et quel est la, parce que quand il s'agit de l'intelligence, la forme intentionnelle intelligible est produite par l'intellect agent. Alors, est-ce que dans la sensation, j'ai besoin d'un intellect agent ou d'un sens actif? Alors, on dira non, parce que la qualité sensible suffit. Parce que le sens est altéré, le contact avec le point de vue de l'organe suffit pour que de fait il y ait une réaction vitale et à ce moment-là la forme intentionnelle peut exister. Les scolastiques vont jusqu'à dire que les anges jouent un rôle là-dedans, qui permettent l'actuation de la lumière par problème. Ce serait intéressant uniquement à titre historique et archéologique de voir tout ce qu'on a recherché dans ce domaine-là, essayer d'expliquer ce phénomène tout à fait particulier, que je suis modifié et que l'autre n'est pas modifié. Alors, c'est le domaine de la forme intentionnelle. C'est sûr que la forme intentionnelle sensible est la plus difficile à saisir. C'est la plus difficile. Mais je peux arriver à le saisir par le point de vue de l'image. L'image est une forme intentionnelle sensible aussi. Mais l'image est une forme intentionnelle qui est en même temps ce que je vois. Tandis qu'ici, ce n'est pas la forme intentionnelle que je vois, c'est le sensible propre. Mais c'est le mot et le poids, selon le langage scolastique. Ce par quoi je vois, c'est la forme intentionnelle sensible qui détermine mon organe, qui détermine ma faculté. Et ce que je vois, c'est le rouge. Mais le rouge n'est pas la forme intentionnelle. C'est le rouge que je vois, donc le quoi, ce que je vois. Et ce par quoi je vois le rouge, c'est cette forme intentionnelle. Il faut bien poser quelque chose. Alors on vous dit forme intentionnelle pour essayer d'expliquer cette chose particulière qu'il y a un premier moment où le vivant connaît une immanence très particulière qui est l'immanence de la connaissance. Parce que je n'ai pas dans la vie végétative. Dans la vie végétative, l'intentionnalité est uniquement au niveau de la semence. Pour expliquer la croissance. Parce qu'il n'y a pas d'autre intentionnalité. Tandis qu'ici, l'intentionnalité est au niveau formel. Et c'est le premier moment où on est obligé de poser ce point de vue de l'intentionnalité. Alors, ça, il faut être attentif. Il faut progressivement comprendre ce que c'est que l'intentionnalité. Et l'intentionnalité est une chose difficile à comprendre, remise très en lumière aujourd'hui avec Brentano. Brentano était un dominicain donc qui connaissait assez bien la scolastique, et Brentano a remis en lumière pour la philosophie allemande l'intentionnalité, et c'est à partir de là que Husserl l'a reprise, en lui donnant une signification différente, mais à l'intérieur de la philologie, vous retrouvez tout le point de vue de l'intentionnalité. C'est la tarte à la crème aujourd'hui, l'intentionnalité. Alors il faut bien saisir ce que c'est que l'intentionnalité, vous voyez, parce que elle est le point de départ de l'intentionnalité, c'est Aristote. Platon n'a pas besoin d'intentionnalité, parce qu'il ne distingue pas l'ontologique et la connaissance, vous voyez, il y a un blocage des deux. Dès que je connais, dès que je distingue le domaine de la connaissance du domaine biologique, du domaine physique, il faut expliquer ce domaine-là. Et là, c'est à partir de l'intentionnalité, de la forme intentionnelle, que j'explique la différence de niveau. Alors, nous allons continuer à essayer de comprendre comment, après avoir vu les différents degrés de vie, la vie biologique et la vie sensible, n'oubliez jamais ça, vie végétative. Deuxièmement, la vie sensible. La vie sensible, premièrement, petit a, la connaissance. Les connaissances sensibles. Les diversités de connaissances sensibles. La connaissance sensible implique tout de suite une diversité. Les cinq sens. Et puis dans cette diversité, une certaine unité. Le sens commun. Une certaine unité. Puis, ensuite, à l'intérieur de cette vie de connaissance sensible, une certaine immanence qui permet l'éloignement par rapport à l'objet immédiat, l'imagination. Et l'imagination me permet de comprendre ce que représente la mémoire. Vous voyez, les dépassements, c'est ça qui est intéressant à voir. Les dépassements par rapport au monde physique. Il y a un premier dépassement. S'il n'y avait pas d'intentionnalité, il n'y aurait pas de dépassement par rapport au monde physique. Il n'en resterait que le physique. C'est parce que dès qu'il y a sensation, il y a intentionnalité, et c'est pour ça qu'il peut y avoir l'image. Et alors je pourrais, hein, ce serait intéressant à voir, mais ce serait peut-être le moyen. Je n'ai peut-être pas fait assez en critique pour ceux qui ont suivi le cours de critique. Parce que ce serait peut-être le moyen, vous voyez, de montrer l'imagination existe, on ne peut pas le nier. Donc, il y a un domaine de l'image. Si l'image existe et que l'image, l'imagination dépend des sensations, il faut que dans la sensation, il y ait quelque chose qui peut être employé par le point d'imagination. Alors l'image, tout le monde reconnaît que l'image est dans l'intentionnalité. Il faut donc que l'intentionnalité s'enracine dans nos sensations. Autrement, il n'y aurait pas d'imagination. Pour expliquer l'intentionnalité de l'image, il faut l'intentionnalité des sensations. Oui, ce serait une double confirmation. Ce serait l'analyse de la sensation et puis montrer comment la sensation est source de l'imagination et comment l'imagination est source de la mémoire. Alors on voit le dépassement progressif à l'égard du monde physique. Le vivant, plus il est vivant, plus il est capable d'immanence. C'est-à-dire qu'il garde au-dedans de lui son propre bien. L'imagination me permet de garder au-dedans de moi tout ce domaine de la représentation. Le monde physique peut être détruit, je continue de fabriquer des images. C'est une chose extraordinaire. Et c'est vrai, ça, c'est exactement ça, je continue de former des images. Quand j'ai vu quelque chose d'extraordinaire, merveilleux, ça m'a marqué très fort ma sensation, et je le garde dans l'imagination. Et l'imagination, alors, elle est au-delà du temps grâce à la mémoire. Vous voyez, le double dépassement, espace et temps. L'imagination, le dépassement à l'égard de l'espace, et la mémoire à l'égard du temps. Donc le double dépassement qui montre comment l'intentionnalité sensible implique ce double dépassement. Image, mémoire, espace, temps. Qui montre bien que l'espace et le temps n'est qu'un conditionnement de ma vie intellectuelle et non pas une détermination. Contre Kant, au point de vue critique. C'est important de voir ça. Parce que l'espace et le temps, vous voyez le dépassement. Il y a un dépassement de l'espace par le point de vue de l'image, il y a un dépassement du temps. Alors ce dépassement est un dépassement qui n'est pas total. Parce que mes images restent toujours liées à un aspect de l'espace. Il y a un milieu. Il y a un milieu imaginaire. Et il y a un milieu de mémoire. Mais il y a quand même un dépassement premier de l'espace et du temps. Du lieu et du temps. Bon. Nous allons entrer maintenant dans le milieu de l'affectivité sensible. À côté de la connaissance, il y a tout le domaine de l'affectivité. Autrement dit, nous allons entrer dans ce domaine extraordinaire des passions. Alors ça, c'est très intéressant. C'est très... Alors, toutes les objections que vous avez, puisque nous avons beaucoup d'expériences de nos passions, j'espère, n'est-ce pas ? Ou alors, toutes les expériences que nous pouvons avoir des passions, il faut philosophiquement pouvoir expliquer vos passions. Faites-vous un examen de conscience de vos passions, n'est-ce pas ? Pas moralisant. Il y a un examen de conscience de vos passions. Je ne suis pas moral, je suis au niveau philosophie du vivant. Et la passion au niveau du vivant, comme l'imagination, comme la mémoire, c'est une richesse. Si on a une vie très grande, une très grande vitalité, on est passionné. Le jour où vous n'êtes plus passionné, c'est un signe de vieillesse et de décadence. N'est-ce pas ? Parce que ça, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, être passionné, alors ça ne veut pas dire que toute passion est bonne, ça veut dire que la passion en elle-même n'est pas mauvaise. Alors, il faut évidemment surveiller ses passions. Alors, nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce domaine affectif et quel est le lien entre la connaissance et l'affectivité. L'existence des passions, au point de vue philosophique, je suis obligé de partir de là. L'existence de mes passions, je crois que c'est assez facile de s'en rendre compte. Pas besoin d'assister beaucoup. Mais il faudrait quand même essayer de comprendre la dernière colère que vous avez eue. Peut-être qu'elle est actuelle, ça c'est possible. Alors, la dernière colère que vous avez eue, non ? La colère. La colère, on me fait très bien comprendre ce que c'est que la passion. C'est sublime, les colères. Le De ira Sénèque, il faut le lire de temps en temps. Parce que cette description de la colère, c'est extraordinaire. On reconnaît tout de suite tel ou tel, bon, tel ou tel pion de collège qui était mis en colère, etc., et qu'on avait surnommé colérant. Jésuite, on avait surnommé colérant, si c'était un préfet d'études qui se met en colère et qu'on arrive à mettre en colère, alors évidemment c'est dénommé colérant. Quand on retrouve 20 ans après, c'est assez amusant, le père colérant. Bon, alors la colère, la passion, ceux qui aiment le chocolat, après le carême, ils désirent du chocolat, c'est quand même une passion ça, une passion qu'on fait, qu'on se précipite dessus et que quelquefois c'est celui qui aime l'alcool, ça va arriver, hein. La passion affective d'amour. La passion désir. C'est surtout le désir de ce qu'on sent. C'est le désir. Hein. Vous ressentez un désir énorme. Véhément. Rien de plus véhément que passion. C'est très véhément. Alors évidemment, dans notre vie, c'est lié à des tas de choses. Est-ce que c'est sensible? Oui, c'est sensible. Je le sens bien. Vous voyez, mes passions, on les sent tout de suite. On les sent tout de suite, les passions. Vous allez dire, ah, je suis passionné, mais je ne le sens pas. Alors là, il n'y a pas de danger, vous n'êtes pas passionné du tout, si vous ne sentez pas. La passion, ça se sent. Et c'est immédiat à fleur de peau. Et ça a même une répercussion biologique. C'est ça, c'est tout de suite. On voit bien, c'est ce que Sénèque dit. Il rougit, les yeux fixés. Alors on voit très bien la colère qui monte et qui fait que la voix devient jalouse. On tape du pied, on tape de la main, c'est n'importe quoi. On brise. Donc c'est lié à l'aspect biologique. On sent nos passions. C'est lié à l'aspect biologique. Et c'est lié aussi à quelque chose d'imaginatif. Nous pouvons très bien avoir certaines colères qui reviennent avec véhémence très longtemps après. C'est très curieux. On se retrouve devant une situation. On s'est mis en colère devant des. Et bien alors, quelqu'un qui est vraiment pour nous, hein, un ennemi, ça existe ça. Alors, on s'est mis en colère devant ça. 10 ans après, dans des circonstances tout à fait différentes, on retrouve le témoin. Et là, il y a une poussée de colère. Différente de la première. Hein, mais une poussée de... Donc, ce qui prouve que les passions peuvent s'alimenter par l'imaginaire et la mémoire. Et quelquefois, c'est beaucoup plus véhément que quand on est en présence de quelqu'un. C'est-à-dire les gens qui font des raisonnements comme ça, au point de vue colère, au point de vue passionnel, n'est-ce pas ? Ah, quand je suis en face de celui-là, ah, il verra, puis la colère monte, et puis quand il est en face de la nuit, il y a quelque chose. C'est très, très curieux, ça. Mais ça, c'est le phénomène conscient de la colère. C'est que la colère est plus véhémente par l'imaginaire que par la sensation. Quand vous êtes en présence de l'individu, il y a un réalisme qui fait que ça tombe un peu. La soupe au lait dégringole, ça tombe un peu. Tandis qu'on voudrait l'imaginaire à pousser, pas pour tout le monde, hein, ça dépend des cas. Pas des circonstances, mais ça, c'est très net, montre très bien que nous avons en nous, autrement dit, nous portons en nous tout ce qu'on appellerait le psychisme. Je crois que le psychisme est toujours affectif. Il est toujours affectif et il est passionnel. Donc c'est vraiment, mes amis, extraordinairement intéressant des passions. Si on voulait faire la critique profonde de Freud, la critique de tous les psychanalystes, c'est ce domaine affectif qu'on doit étudier. Pour voir si ce domaine affectif a été bien étudié par Freud, bien étudié par Jung, bien étudié par tous les psychanalystes ensuite. C'est ce domaine que les psychanalystes mettent en pleine lumière, et là, ils y aiment un peu trop. Parce qu'en réalité, hein, ce domaine affectif, il est pris par le domaine des sensations, des connaissances. Nos sensations peuvent être un remède très très bon à l'affectivité qui monte. La méthode Vitoz. La méthode Vitoz, c'est tout simplement ça. C'est de dire que si nos sensations sont plus actuelles, notre affectivité passionnelle diminuera. Notre affectivité imaginative va diminuer, parce que nos sensations seront plus en acte. Philosophiquement, toute la méthode Vitoz repose là-dessus. Et c'est juste, c'est quelque chose de très vrai, ça. C'est bien évident, ça. C'est que le réalisme de la sensation apaise. Oui. Ce qu'on ne voit pas beaucoup, Freud. Ce qu'on ne voit pas beaucoup, Jung. Vous voyez, on coupe. C'est ça, je crois, la grande erreur. On coupe l'affectivité de la personne humaine, oubliant que cette affectivité est née de la sensation, et que la sensation en acte va redonner autre chose. Vous voyez, donc, on va tout de suite cerner, au point de vue philosophique, on va tout de suite comprendre que la sensation n'est pas le psychisme au sens absolu, non ? Le psychisme est interne. La sensation, elle nous met en contact avec le réel. Et que l'actuation de nos sensations va apaiser, la soupauler, va apaiser l'affectivité qui monte. Et puis d'autre part, on doit voir aussi que cette affectivité passionnelle, cette affectivité liée à l'imagination, liée à la mémoire, cette affectivité peut être au service de quelque chose qui sera au-delà de l'affectivité, qui sera important et que nous verrons ensuite, l'affectivité volontaire. Le lien entre l'affectivité passionnelle et l'affectivité volontaire est très très difficile à saisir. Or, dans Freud, on n'étudie jamais le lien entre les deux. C'est la grosse lacune. Et il y a deux lacunes tout de suite, qui montrent qu'on est dans une perspective abstraite, dialectique, qui fait qu'on coupe l'affectivité de sa source et on coupe l'affectivité du milieu humain normal. Normalement, notre affectivité passionnelle est au service de notre affectivité volontaire. Mais il peut se faire, alors là je suis tout à fait d'accord, il peut se faire qu'à certains moments, l'affectivité passionnelle liée à l'imagination est telle qui est comme une inhibition complète de la volonté. Alors la volonté, à ce moment-là, est reculée. Et quand je parle de l'affectivité volontaire, je parle d'une affectivité qui est éclairée par l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a deux manières, au point de vue humain, au point de vue philosophique, il y a deux manières de bien cerner l'affectivité sensible, c'est de voir qu'elle n'est pas la sensation, qu'elle n'est pas l'aspect volontaire et l'intelligence. Or, du côté affectivité, nous le verrons, hein, je suis obligé de le dire tout de suite, du côté affectivité, il y a un lien entre l'affectivité passionnelle et l'affectivité volontaire. Un lien très fort. Cette fameuse phrase d'Aristote, hein, les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance et pas du côté de l'affectivité. Parce que l'affectivité est une. Dans son exercice, toute affectivité volontaire est liée à l'affectivité passionnelle. Et toute affectivité passionnelle est liée à l'affectivité volontaire. Donc il y a un lien très fort qui fait que la distinction des deux est très très difficile à faire. Même quasi impossible. Mais on peut la faire grâce à l'intelligence. L'intelligence est présente dans l'affectivité volontaire. C'est pour ça que je sais ce que je veux aimer. Quand je dis je sais ce que je veux aimer, vous voyez, l'intelligence est présente dans mon affectivité volontaire. Et alors, par le point de vue de l'intelligence, je peux cerner, vous voyez, c'est très curieux. C'est la connaissance qui cerne l'affectivité. Il y a une connaissance de sensation et il y a une connaissance intellectuelle. Les deux grands moyens de canaliser mon affectivité passionnelle pour qu'elle ne déborde pas les crues de la Saône, hein, pour qu'elle ne déborde pas. Pour qu'elle ne déborde pas et qu'elle ne prenne pas tout. C'est actuer les sensations, actuer l'intelligence. Quand j'actue l'intelligence, je fais que nécessairement, mon affectivité passionnelle va diminuer. Et c'est facile à comprendre parce que tout dépend d'une seule âme. Mon capital de vie est limité. Si mon capital de vie était infini, je ne pourrais pas dire ça. Mais comme mon capital de vie est limité, si j'ai une attention particulière vis-à-vis du travail, vis-à-vis de mon intelligence, et une attention particulière vis-à-vis de la sensation, je canalise. Oui. Je creuse comme des puits dans lesquels l'eau va pouvoir s'engouffrer dedans. En réalité, il ne s'engouffre pas dedans parce que c'est plutôt la sensation, la passion qui s'arrête. C'est facile. Vous comprenez bien, le capital de vie étant limité, si j'actue davantage mes sensations, si j'actue davantage mon intelligence, en l'appliquant, alors à ce moment-là, l'affectivité sensible passionnelle va diminuer. Et c'est une manière, quand on est en colère, de diminuer la colère. Si vous avez un habitus philosophique et métaphysique, faites de la métaphysique. Ça vous fera tomber votre colère. Dès que vous avez pris votre travail intellectuel, la colère reprendra. Mais ça, c'est sûr. C'est évident. Tout de suite, l'affectivité reprend. Mais pendant un certain temps, on a été victorieux. Et c'est déjà beaucoup. On a gagné du temps. On a gagné du temps. Et c'est la même chose pour la sensation. Elle ne supprime pas. C'est bien évident, ça ne supprime pas. C'est une espèce de tactique politique pour diminuer l'affectivité passionnelle, diminuer cette affectivité passionnelle et lui permettre d'être ce qu'elle doit être. L'affectivité passionnelle en elle-même n'est pas mauvaise. Elle est même bonne. Mais elle risque, étant donné ce que c'est que l'imagination, étant donné ce que c'est que l'imaginaire, elle risque de tout prendre. Troisième point, que je crois intéressant aussi, c'est pour vous montrer, on entre dans un maquis, dans un fourré, forêt vierge, qui pousse avec une rapidité extraordinaire, non ? Débouteillé, ça pousse. Alors, troisième point, très important, cette affectivité passionnelle est toute proche de l'enracinement très profond, il faudrait plutôt mettre comme ça, de la vie végétative et de ce qu'on va appeler l'instinct. Je dis bien ce qu'on va appeler l'instinct. Nous n'avons pas encore parlé d'instinct. On en parlera forcément avec l'affectivité passionnelle. Parce que l'instinct, qu'est-ce que c'est que l'instinct ? Aristote parle d'un appétit naturel. L'appétit naturel n'est pas l'instinct. C'est le fondement de l'instinct. Et l'instinct, c'est l'appétit naturel lié à notre affectivité passionnelle. Alors là, je peux dire que c'est l'instinct. Vous voyez, elle devient, c'est assez délicat, l'appétit naturel. Bien, vous voyez, il y a un appétit naturel à l'égard de l'aliment, il y a un appétit naturel à l'égard de la procréation. L'appétit naturel de l'individu, l'aliment, le boire et le manger, le chocolat et la licorne. Et l'appétit naturel, à l'égard de la procréation, ce qu'on appelle l'instinct sexuel. L'instinct sexuel, c'est pas uniquement cet appétit naturel. C'est quelque chose de plus. C'est cet appétit naturel lié à l'affectivité passionnelle. Et l'affectivité passionnelle est de fait liée à l'instinct. C'est sûr. Vous sentez bien quand vous avez faim. Quand vous avez très faim. L'appétit naturel de nous nourrir, mais alors que ça peut venir quelquefois tellement fort que ce moment-là, vous le faites, j'attends l'heure du repas, plus rien faire. L'affectivité passionnelle passe devant d'une manière tellement forte que vous ne pouvez plus faire qu'une seule chose, c'est de dire oui, j'attends. On veut se précipiter, si on était un chien, on se précipiterait à une vitesse en défonçant les portes. Mais comme on est quand même un peu cultivé, un peu civilisé, alors on attend. Quand même, il y a du retard. On ne le montre pas, on ne le dit pas, mais en deux ans de même, on pense à rien d'autre. Alors ça, c'est l'affectivité passionnelle liée à l'instinct. C'est extraordinaire, ça. On verra, voyez les trois. Je crois qu'il faut donc saisir tout de suite, si je saisis ce maquis. J'ai saisi cette affectivité passionnelle, on va maintenant voir ce qu'elle est en soi. Et je la vois dans son exercice. Elle est liée à la sensation, un. Elle est liée à l'appétit volontaire et l'intelligence. Elle est liée à l'instinct, à l'appétit naturel. Voilà les trois enchevêtrements dans lesquels se trouve l'affectivité passionnelle. Mon affectivité passionnelle est liée aux trois. Alors, dans une méthode purement psychologique, je dis bien, là, on est obligé de faire appel, de regarder la psychologie. La psychologie nous donne des tas de renseignements là-dessus, intéressants, mais qui ne sont pas la philosophie. Pourquoi ? Parce que la psychologie regarde uniquement l'exercice. Elle n'analyse pas. La psychologie n'analyse pas. Elle décrit. Mais elle décrit l'exercice. C'est pour ça qu'elle est si propre à la philologie. Elle décrit. Elle décrit donc les liens de l'affectivité passionnelle avec la sensation, les liens de l'affectivité passionnelle avec l'aspect volontaire, les liens de l'affectivité volontaire avec l'instinct. C'est pour ça qu'on dira la psychologie des profondeurs, vous comprenez bien, la psychologie des profondeurs, c'est l'affectivité passionnelle liée à l'instinct. Parce qu'en effet, l'instinct, c'est ce qu'il y a de plus profond au niveau vie végétative. Mais c'est pas du tout ce qu'il y a de plus profond au point de vue de l'homme. Mais au niveau passionnel, c'est-à-dire au niveau affectif, au niveau psychique, c'est en effet ce qu'il y a de plus profond. Puis c'est la sensation, puis c'est le point de vue, alors ce qui n'est pas plus profond, mais ce qui est plus spirituel, c'est le point de vue de la volonté. Donc je crois que c'est important de voir que lorsque vous êtes en phase d'une description du psychisme, prenez aussi bien Freud que Jung. Et n'importe quel psychologue, on y reviendra, c'est toujours l'aspect descriptif de l'exercice, de nos passions, lié à leur source, lié à l'élément plus spirituel, lié à l'instinct. Et ça, le psychologue ne fait pas l'analyse. Nous allons, nous, au contraire, au point de vue philosophique, analyser ce psychisme pour lui-même. Nous avons vu ses ramifications, c'est facile à comprendre, ces trois grandes ramifications. Parce que vous voyez, quand je dis l'imaginaire, je ne considère pas ça une ramification. Je considère la ramification, les éléments extrinsèques. Donc la sensation, la volonté, extrinsèque mais immanent. Et puis, le point de vue de l'instinct, l'appétit naturel. Tandis que l'imagination et la mémoire sont extrinsèques au psychisme. Pour qu'on précise. Je crois que ça, on peut assez facilement, si on réfléchit sur ce que nous vivons, on peut assez facilement le comprendre. Comprenons très bien comment nos passions proviennent de nos sensations. Je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous, telle colère que vous avez eue. colère particulièrement violente, eh bien c'est toujours lié à un élément d'une présence. D'une présence. Donc une sensation. C'est juste ça. Il y a une présence, une sensation. Et puis, c'est lié, ça peut être lié à un élément volontaire, au point de départ, et ça peut être lié à un élément instinctif, d'un appétit naturel. Pas nécessairement, pas toujours, mais ça peut être lié à ça. Donc, c'est les trois ramifications. Regardons maintenant au point de vue philosophique, dans la mesure où nous pouvons, qu'est-ce que représente cette affectivité passionnelle? Je l'étudie en elle-même. Cette affectivité passionnelle, qu'est-ce qu'elle est? Ça, la prochaine. C'est très bon de vous laisser devant la passion.